Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Que serait un monde sans art, un monde froid, sans profondeur, le monde de cette technoscience qui prend de plus en plus le dessus, un monde sans scandale, et c'est peut-être le fil rouge des trois films de notre émission de ce soir. Le scandale d'un système économique et financier, véritable fumier du diable, comme le dit le pape François pour « Sorry, we missed you » de Ken Loach, le scandale de la guerre et l'horreur de la torture avec « Rome, ville ouverte » de Roberto Rossellini, et le scandale d'un monde qui ne comprend pas que ce sont les petits, les déclassés, les rejetés, qui ont la clé de certains secrets avec « Stalker » d'Andrei Tarkovski. Révolter le cinéma, assoiffé de justice, peut-être davantage. Le grand écran, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, émission donc du vendredi, rendez-vous, l'un de nos rendez-vous appréciés des auditeurs autour du plateau. Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse. Bonjour Louis-Marie.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Et Paul Dima, animateur de Retraite Cinéma, entre autres avec les Cotopaïs et Centres Jésuites dans le Sud-Ouest. Bonjour Paul.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous.
Merci d'être fidèle au poste. Donc trois films difficiles. Voilà, on s'est dit qu'on allait, pour 2020 se donner comme objectif d'avoir des films plus légers. On va y travailler. Et en tout cas, trois très beaux films. Le premier, Sorry We Missed You, donc de Ken Loach. Ken Loach, donc réalisateur connu probablement d'une bonne partie des auditeurs. On va écouter une partie de la bande-annonce. Bande-annonce qui est en anglais. Alors on n'écoutera qu'une partie, mais ça nous mettra au moins un peu dans l'ambiance.
You name it, I've done it. Concreting, plumbing.
Is that you too?
I've done it all. There's always someone on your back, isn't there?
Come on, we've got time to make up, let's go.
I'd rather work on my own now and be my own boss.
Let's just get a few things straight at the start though, shall we?
Hi, Rosie.
Wake up.
Dad will go mental if you miss school again.
No, if you don't move, then
you're
gonna get a ticket.
Oh, Rosie.
You're feeling about life. You don't work for us, you work with us.
Voilà, on a beau se dire que certains parlent anglais, on va quand même pas forcément trop prolonger. La dernière phrase, c'est « You don't work for us, but you work with us ». Cela dit quelque chose de l'histoire, Louis-Marie, que je vais vous laisser résumer sur cette ubérisation du monde du travail, McDonaldisation géante de notre monde. Racontez-nous l'histoire.
Eh bien, c'est l'histoire d'une famille de Ricky et Abby, qui sont le père et la mère, et leurs deux enfants. Ils vivent à Newcastle, c'est en Angleterre, dans le nord de l'Angleterre, nord-est. Et alors, on a entendu la VO. C'est important de l'entendre parce que vous vous rendez compte que c'est pas l'accent qu'on a l'habitude d'entendre. Nous, quand
ça roule l'air.
C'est les classes populaires, les classes laborieuses, c'est l'accent. C'est les gens, j'allais dire les déclassés, mais on n'en est pas loin. Hein. On en est pas loin. Donc Ricky, Abby et leurs enfants, et leurs deux enfants vivent à Newcastle. La famille est très soudée. Les parents travaillent beaucoup, ils travaillent dur. Abby, travaille auprès de personnes âgées. Elle va les aider dans leur quotidien. Et ensuite, Ricky, lui, il enchaîne les jobs, et mal payés le plus souvent, et il vient d'en trouver un pour lequel il a besoin d'une camionnette. Alors sa femme, Abby, va être obligée de vendre sa voiture qu'elle utilisait pour aller se rendre dans chacune des familles, ou voir chacun de ses, on pourrait dire, patients, de ses vieilles personnes qu'elle va aider. Et donc ça va allonger son travail, puisqu'elle va devoir se déplacer en bus, donc elle va faire 14 heures de travail par jour. Et avec cette camionnette, donc Ricky, lui, va travailler auprès d'une plateforme de vente en ligne.
Alors qu'est-ce que ça veut dire ? You don't work for us, but you work with us.
Alors voilà, c'est la façon...
Tu travailles avec nous.
Oui, alors c'est
très rapide de présenter les choses.
Dans le sous-titre n'a pas été traduit comme ça, mais l'esprit est exactement ça. C'est-à-dire qu'on lui fait croire, enfin on lui fait miroiter qu'il est son propre patron, et donc il n'est pas embauché, mais il embarque. Voilà, c'est ce que vous avez traduit, vous avez dit, c'est exactement ça. Il embarque, t'es ton propre patron, tu vas pas travailler pour nous, tu vas travailler avec nous, c'est la joie, la bonne humeur, tu vas pouvoir gérer ton temps comme tu veux, et il va apprendre à ses dépens que non, il peut pas du tout gérer son temps comme il veut, et en fait, il a pas de temps pour lui, il n'a du temps que pour livrer.
Voilà, on en voit d'autres hein, dans les rues de nos grandes villes qui pédalent pour aller livrer, et on citera pas des marques, et quand vous prenez le temps de discuter avec eux, c'est un peu ce qu'ils vous racontent. Alors comme on peut pas passer beaucoup d'extraits, j'en ai trouvé un, c'est une interview qu'a donnée Ken Loach qui est sous-titrée.
Dites-nous comment vous est venue l'idée de ce script, de ce scénario.
Paul Laverty, mon scénariste et moi, on venait de faire le film Moi, Daniel Blake, un film dur qui parlait des gens qui vivaient dans une grande pauvreté. Ils n'arrivaient pas à obtenir d'aide financière ni sociale de l'État, car le système bureaucratique est un cauchemar à affronter et à comprendre. Cette fois, on s'est rendus tous les deux dans des banques alimentaires, là où les plus démunis vont pour s'approvisionner. Et on a constaté avec surprise que beaucoup d'entre eux étaient en fait des gens qui avaient un travail. Ce sont eux que l'on appelle chez nous les « working poor », les travailleurs pauvres, si mal payés et si exploités qu'ils ont besoin d'aide supplémentaire pour s'en sortir. Et c'est là que nous avons décidé de nous pencher sur les conditions de travail de ces gens en situation de grande précarité.
Even if you put one in the garden shed, they know where it lands. Dog round there with massive teeth, I think it stuck a chunk out of my arse.
How did you prepare?
Comment avez-vous mené vos recherches?
Ça a été difficile de trouver des chauffeurs-livreurs qui voulaient bien parler, car ils avaient peur.
Peur de perdre leur travail?
Oui, peur de ne plus avoir de travail. On a entendu des histoires complètement dingues. Des gens qui n'avaient pas le temps de manger, des chauffeurs qui n'avaient pas le temps d'aller aux toilettes et qui devaient même utiliser une bouteille vide au fond de leur camion. Vous n'imaginez pas quand vous recevez un colis, tout ce qu'il y a derrière.
Voilà, donc ça c'est pour l'interview de Ken Loach, et pardon parce que j'ai pas noté dans la précipitation par qui a été faite cette interview. Paul Dima, c'est Ken Loach, donc c'est un réalisateur britannique assez connu maintenant, hein, très engagé. On dit que c'est un style voilà, réaliste et qui en dit long, comme je le disais en introduction, sur les dérives de notre système économique et financier. Pourquoi c'est un beau film ?
C'est un beau film parce que y a un projet important. Ken Loach a maintenant 83 ans. Et il ne dételle pas, il ne décolère pas non plus. Son propos est toujours le même, mais à chaque fois, il suit l'évolution de la société. Dans le film précédent, qui a connu un succès important,
C'était Moi, Daniel Blake, non ?
C'était Moi, Daniel Blake, qui a été tourné dans la même ville, d'ailleurs. C'était le déclassement par la vente ou la sous-traitance au privé du système de santé et de sécurité, et qui mettait les gens justement dans une très grande insécurité économique et de santé, et qui excluait les gens, quoi. Quand on ne rentrait pas dans les bonnes cases, eh ben on n'était pas soigné, et puis c'est tout. Voilà. Et là, il s'attaque à 83 ans, un nouveau phénomène, celui de l'ubérisation de la société, pour prendre un mot plus générique qu'une société particulière. C'est-à-dire qu'on fait miroiter à des gens qu'ils vont être leur propre patron, qu'ils sont maîtres de leur temps, voilà, mais moyennant quoi ils doivent s'acheter leur outil de travail, être en compétition les uns avec les autres.
Et c'est aussi ce qu'on appelle la numérisation du travail. Enfin, parfois, ça peut être une autre incidence, pardon. C'est pas tout à fait la même chose.
C'est pas tout à fait la même chose. Et là, de fait, il y a un côté ubérisation ou numérisation parce qu'ils doivent agir comme des machines et ils sont contrôlés par une machine. C'est-à-dire qu'ils ont un mouchard ou, pour le prendre de façon plus positive, ils doivent scanner tous les colis qu'ils doivent délivrer, ils ont un temps pour le faire, et ils sont suivis à la seconde près par cette machine. Et on trouve ça dans des centres de distribution pareils, c'est-à-dire qu'ils sont soumis à une cadence infernale, espionnés, parce qu'on peut dire ce mot-là, 24 heures sur 24, et ils doivent avoir un rendement de plus en plus important. Alors, la nouveauté dans ce film...
Alors ça, c'est l'histoire, mais pourquoi c'est un beau film ?
C'est un beau film...
Parce qu'on peut comprendre que le propos est grave, mais...
Parce qu'il montre en même temps une famille. Les répercussions de cette dégradation des conditions de travail, mais en même temps que quelque chose résiste grâce aux liens dans la cellule familiale, pardon, qui est très malmenée, mais qui, dans l'adversité, fait bloc, essaie, chacun à sa façon. Même le fils en pleine crise d'adolescence qui balance des trucs à son père parce qu'il lui reproche de jamais être présent, et c'est compréhensible. N'empêche qu'il y a une vraie solidarité dans cette famille, et on voit que même écrasé, il y a de la ressource humaine.
Louis-Marie Kenloch, c'est un cinéaste qui a été de très nombreuses fois primé. J'ai vu que c'était l'un des cinéastes les plus récompensés de l'histoire du Festival de Cannes.
Le plus présent aussi. Oui. En 14 films, il a dû avoir 12 de ses films sélectionnés.
Il a eu 2 Palmes d'Or, c'est ça ?
Oui, la dernière pour Daniel Blake.
On dit souvent que le monde des artistes est à gauche. Là, en l'occurrence, c'est plutôt bienvenu. C'est un cinéaste qui est largement, on va dire, soutenu par le monde de la culture, mais qui touche au-delà. Qu'est-ce que vous diriez un peu de son rayonnement ?
C'est-à-dire que il faut pas s'arrêter aussi au fait que c'est un maître de la chronique sociale, c'est qu'il est à gauche, bien sûr, toujours du côté des opprimés, des déclassés, toujours en prise directe avec ce qui se passe. Hein, depuis ses débuts dans les années 60 jusqu'à maintenant, il a toujours su décrire ce qui se passait dans la société, comme l'a souligné Paul. Mais il fait du cinéma. Et quand il fait du cinéma, il le fait bien. Il sait mettre sa caméra où il faut et il est un maître d'acteur extraordinaire, formidable. Et il sait trouver les acteurs parce qu'il faut noter que la plupart du temps, le plus souvent, pas toujours, hein, mais souvent, ces acteurs sont des acteurs non professionnels. Le personnage de Ricky, l'homme qu'il interprète, je n'ai pas son nom. Si, je l'ai. C'est Chris Hitchen, pardon. Et Chris Hitchen, ben, il est plombier de son état. Il n'est pas acteur, il est plombier de son état. Il sait tirer le meilleur parti de ses acteurs, qu'ils soient professionnels ou non. Après, les sujets sont toujours forts. Il n'a pas toujours fait des films exceptionnels, mais la plupart du temps, ses films méritent toujours d'être vus. On ne peut pas le dire de tous les cinéastes. Et là, ce que disait Paul, la famille, oui, c'est le dernier rempart, la dernière chose qui rattache cet homme et cette femme et puis leurs enfants à l'humanité, finalement. Mais c'est précaire, c'est très précaire, parce que le gamin, l'adolescent, il renacle beaucoup et il balance des trucs à son père qui sont terribles. Il dit, mais à quoi ça sert que je travaille, que j'ai des résultats, que j'ai des diplômes pour finir comme toi? C'est terrible ce qui se passe, c'est terrible. Et ils arrivent quand même à surnager. Il y a quand même toujours de l'espoir chez Ken Loach, même si ça finit dans des moments où on se demande si on va pas se précipiter vers une boîte de mouchoirs, dans le meilleur des cas.
La Croix, implacable et poignant. L'humanité, c'est un film sans concession, un état des lieux lucide sur une génération sacrifiée sur l'autel d'un capitalisme débridé. Et même le Figaro, Ken Loach, tire le signal d'alarme. Il le fait avec une sobriété efficace, un œil implacable et généreux. On va faire une première pause et puis on va rappeler que c'est ce que nous a appris la crise des Gilets jaunes. Si on ne le connaissait pas, c'est qu'il y a un tiers des personnes en France qui sont en situation de précarité par rapport à l'emploi. C'est 8 millions de personnes. 8 millions de personnes sur 24 qui sont parmi la population active. Donc il n'y a pas besoin de chercher outre-Atlantique. On fait une première pause et on vous retrouve.
Rhymes ever made by man are going into this mic written by this hand, are coming out of this mouth made by this tongue. I tell you now, my man, my name is Young. But so you think that it's your destiny to get the best of me, but I suggest to be quiet, bro, don't even try it. From the east and west of me, taking it and never breaking it, or even shaking it, grooving it and always moving it, cause I'm not faking it. Pulling out rhymes like books off the shelf, born in England, raised in Holland, taught to go for myself. This is stone cold rhyming, no frills, no fluffs, and it's no accident that these rhymes sound tough. I'm going off, baby, there's no turning back. I'm on your TV, on your album cassette, and 8-track. And when the show is finally finished, I'll be taking my bath. My name is Young and yo, I got no how. You know what I'm saying? I got no how. Party people, I got no how. I kick it just like this.
I got juice like the president. I'm making rappers hesitant. Invite me to your house and I'll be chilling like a resident. Yes, cause I'm that type of man. Cause I make myself at home no matter where I am. I got it rolling like thunder, making y'all wonder why I'm on top with all the other rappers under. I make no errors, mistakes or blunders. It's like a wedding, let no man put asunder. My name is Young and see, I like to rock right well. Cause when I get up on the mic, I just release my spell. It's no hocus pocus, I just get you into focus and swarm all over.
Présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, émission cinéma mensuelle. Autour du plateau, Louis-Marie Soler, producteur de l'émission cinéma de Radio Présence, n'oubliez pas l'ouvreuse, le mercredi à 19h. Et Paul Dima, animateur entre autres de Retraite Cinéma avec les Coteaux Païs et Centre Jésuite dans le sud-ouest. Louis-Marie, juste ce qu'on vient d'écouter, ça n'est pas une fantaisie, une de vos fantaisies, dites-nous ce qu'on a entendu.
Ah ben c'est un titre qu'on entend dans le film de Ken Loach, Sorry We Missed You, écouté par le jeune adolescent et qui est en toile de fond à un certain moment dans le passage du film. Et c'est, vous l'avez entendu, ce qu'on appelle un rap. Et vous savez que les rappeurs utilisent beaucoup des musiques qui ont été déjà faites. On appelle sampler, c'est-à-dire qu'on en prend un extrait, on dirait un extrait en français. Et le sample qu'on entend, la fameuse boucle du début, est un titre fameux des années 70, qui est une bande originale de film qui avait été composée par Isaac Hayes, un maître de la musique soul noire américaine, et qui illustrait un film qui se passait dans les bas-fonds de Harlem, les nids rouges de Harlem. C'était l'inspecteur Shaft, le fameux Shaft.
Il est érudit, hein. C'est vraiment un érudit du cinéma et de la musique, hein. Je vous taquine, mais merci beaucoup, Louis-Marie. Deuxième film, notre chef-d'œuvre spirituel du mois, Rome, ville ouverte, de Roberto Rossellini. Il me semble qu'on avait déjà parlé de films de Rossellini à cette antenne depuis qu'on fait cette émission, sorti en 1945. Cela se passe justement à la fin de la guerre, hein, fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans une Rome occupée, on finit par ça fait maintenant tellement longtemps que on finit par oublier ce qui a pu arriver par les Allemands. On écoute, c'est pareil, la bande-annonce qui cette fois est en italien. Alors on espère qu'on a des gens qui parlent anglais, italien et bientôt allemand parmi nos auditeurs. On va écouter juste quelques secondes pour nous mettre dans l'ambiance.
Giorgio Manfredi. Allo, pronto?
C'è Giorgio? Marcello! Devi andare a Don Pietro, sbrigati! Attenti, Don Pietro! Bisogna stringere un blocco compatto contro il comune nemico.
Voilà, Rome, ville ouverte, donc film italien de Roberto Rossellini. Je raconte l'histoire, ça se passe donc dans cette ville, dans la ville éternelle. Un chef d'un réseau résistant communiste, l'ingénieur Manfredi, est traqué par la Gestapo. Il se cache chez un imprimeur, Francesco, qui doit se marier à une femme italienne de tempérament, j'allais dire comme on les aime, une certaine Pina. Voilà, et il y a bien d'autres personnages, entre autres des personnages extrêmement sombres que sont donc le chef de la milice SS et des collaborateurs, des collabos version italienne du régime fasciste. Se noue toute une intrigue autour de ces deux personnages. Alors c'est à la fois un film sur la guerre et plus, on en parlera, et en même temps, je ne sais pas si c'est la magie de Rome et de l'Italie, mais c'est un film plein de vie aussi. Louis-Marie, qu'est-ce que vous diriez pour compléter cette courte présentation ?
Ben oui, c'est ça, parce qu'on est c'est-à-dire que quand le film a été tourné, c'est important de le dire, même s'il se déroule, il montre ce qui se passe à la fin de la guerre, à partir de 1943, on est juste à la fin de la guerre, donc il y a tout à construire, il y a tout à refaire tout, à revivre, à changer. Ils ont, ça a été pesant, ça a été lourd.
Donc c'est pas des décors, c'est vraiment la.
Ah mais c'est la particularité de ce film même, dont on dit qu'il est le premier film du néo-réalisme italien. Et donc après des années de dictature, donc l'Italie se libère du fascisme. Alors évidemment, ça s'est passé sur les balles, mais alors maintenant ils ont tout à reconstruire. Et donc ils ont décidé d'aller tourner dans ce qui est devenu l'Italie, dans ce qu'est l'Italie à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on voit les villes telles qu'elles sont. Alors dans Rome, ville ouverte, il se trouve qu'il y a moins de ruines qu'ailleurs. Pourquoi ? C'est parce qu'elle est ville ouverte. C'est-à-dire qu'elle avait été déclarée ville ouverte pendant le conflit de la Deuxième Guerre mondiale. Ça signifie que les combats, ville ouverte, ça signifie que les combats doivent cesser dans l'enceinte de la ville afin d'éviter de menacer les monuments et la population. Voilà pourquoi il a choisi ce titre. Et donc, effectivement...
Et quand je dis que c'est un film sur la guerre, mais aussi un film qui est plein de vie, il y a...
C'est parce que...
Il y a des histoires d'amour à l'intérieur de...
Exactement.
De différents types à l'intérieur de ce film sur la guerre.
C'est... Tout ce qui traverse les personnages, c'est quelque chose qui les raccroche à la vie. Ils veulent une autre vie, ils veulent autre chose, ils veulent plus le joug de l'occupant nazi, ils veulent construire autre chose, ils veulent se libérer, oui, c'est plein de vie, même si c'est dramatique pour eux.
Et il y a un dialogue justement entre Francesco et Pina qui doivent se marier. On voit un Francesco, ce résistant extrêmement calme qui lui dit « Pina, il faut y croire, demain il y aura un autre avenir pour nos enfants et je ne sais pas pourquoi, mais je le sens à l'intérieur de moi comme une certitude. Est-ce que pour nous parler un petit peu de ce cinéma italien néo-réaliste, quand vous dites que c'est le premier film du genre et que Roberto Rossellini, par ce film, a inauguré ce genre, pour ceux qui connaissent mal, rappelez-nous.
Eh bien, on est donc à la fin de la guerre. Donc, tous les endroits où on pouvait tourner des films sont soit détruits, soit il n'y a plus le matériel qu'il faut. Et d'ailleurs, il n'y a plus de matériel du tout. Ils n'en ont plus. Donc, après tout, pour les décors, pourquoi ne pas sortir et montrer ce qu'est la vie, ce qu'est la ville. Et puis on...
Vous voulez dire qu'on faisait pas ça avant, en fait ?
Non. Quand on tournait dans une ville, cette ville, elle était artificielle. Elle était reconstruite en studio.
On montrait pas la réalité.
Non, en fait, on montrait pas la réalité, jamais. Très rarement. Hein. Chaque fois qu'on voyait un film à l'époque, qu'il soit italien, français, américain, tout se passait en studio. C'était beaucoup plus facile pour eux à tourner. Il n'y avait pas les aléas de la température, de l'éclairage, de tout ce qui peut...
Oui, c'était une réalité reconstruite.
Exactement.
Tandis que là, c'est comme tel que...
Et en plus, comme ils décrivent la fin de la guerre, donc tout est possible de le montrer. Alors, ce qui est aussi... Il n'y a plus d'artifice, il n'y a plus d'éléments superflus. Le néo-réalisme se veut cru et direct. C'est ça la démarche. Il y avait Cesare Zavattini qui avait dit, à propos, c'est la phrase emblématique du néo-réalisme, le film idéal, ce serait 90 minutes de la vie d'un homme pendant lesquelles il ne se passerait rien. Alors quand il dit ça, il ne se passerait rien. Il se passe des choses dans Rome, ville ouverte. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais néanmoins, on est tout près d'eux. On est à leur côté. Et à savoir dans quelles conditions ça a été tourné, et je vous laisserai la parole après, c'est que ce qui est assez extraordinaire, c'est que pour arriver à tourner, ils avaient de très petits moyens. La pellicule qu'il a utilisée pour tourner son film, c'est un ensemble de pellicules photographiques, c'est-à-dire les pellicules qu'on mettait dans les appareils. Ils les ont assemblées bout à bout en chambre noire pour avoir assez de métrage pour pouvoir faire le film. C'est assez extraordinaire. Pour arriver à cette qualité d'image et à cette qualité de film, c'est assez exceptionnel.
Et c'est un film aussi qui s'est inspiré, j'ai vu, de nombreuses histoires vraies.
Oui.
Le scénario a été construit par d'autres, entre autres par un homme qui était... avec Federico Fellini, c'est ça, hein,
oui.
qui était un jeune journaliste à l'époque.
Oui, exactement.
Autre grand nom de ce cinéma. Alors, pourquoi est-ce que c'est un... Alors non, on va creuser les thèmes. Je disais amour et guerre. Qu'est-ce que vous sortiriez de ce film, peut-être, comme on peut pas passer des extraits, Paul, en essayant de décrire aussi les moments frappants?
On voit qu'il y a des barrières qui ne sont plus pertinentes dans l'histoire du film. On voit un résistant communiste et un curé
oui.
de paroisse. Et ils sont tous les deux portés par le même projet, le même élan, les mêmes valeurs, d'une certaine façon, et avec un respect mutuel. Don Pietro est embarqué, hein, et accepte d'être compromis. Et dans le camp de ceux qui sont écrasés par ceux qui s'appellent « Nous sommes de la race des seigneurs ».
Et il, c'est ce que disent les SS
et,
d'eux-mêmes.
Et
ouais.
dont Pietro le repose à ça. Heureux, les doux, enfin, il reprend la foi des chrétiens et il dit « Pauvre seigneur, vous serez battu ». Voilà. À un moment, même il craque, il en demande pardon parce que, au moment du supplice, il invective
les
bourreaux, il les maudit. Et après, il se repent, il prie devant eux qui sont stupéfaits parce qu'il est la figure du faible, du non-gagnant. Voilà. Et en fait, toute la dynamique du film, ce sont les faibles qui gagnent, même s'ils meurent.
Alors ça aussi, donc cette alliance, ça dit quelque chose de cette après-guerre hein, qui nous paraît loin oui. aujourd'hui, mais dont on vit quelque part encore dans nos sociétés occidentales, hein, cette fameuse, en tout cas pour la France, cette fameuse alliance d'après-guerre, Conseil national de la résistance, dans lequel il y avait des croyants, des communistes, et tout le monde se serrait les coudes pour un même projet de société aussi.
Tout à fait. Et un projet de société qui fasse place aux plus faibles, aux plus pauvres. Enfin, une vision de l'égalité, c'était pas le ruissellement des plus riches vers les plus pauvres, c'était il faut donner les conditions de base pour que les gens du peuple puissent être éduqués, avoir la santé, etc., etc., du travail. Voilà.
Alors, pourquoi c'est un chef-d'œuvre ? Paul a commencé de répondre. Qu'est-ce que le cinéphile que vous êtes dirait, Louis-Marie ?
Mais parce que...
Pourquoi faut-il l'avoir dans sa DVTech?
Oui, effectivement, il faut l'avoir dans sa DVTech. Mais pour tout ce qui est ce film, pour à la fois la façon dont il a été fait, la façon dont il a été tourné, les acteurs et les actrices qu'il interprète et l'histoire qu'il raconte, qui a très bien montré, a très bien souligné Paul à l'instant. Parce que il fait... Rossellini, dans ce film-là, fait un tableau de l'Italie en guerre. L'Italie en guerre, dont on a rarement parlé, en fait. C'est vrai, au cinéma, il y en a peu. Ils avaient une position... ils étaient avec les Allemands, après, ça a changé parce que c'était mal parti. La population italienne était partagée, en fait. Fasciste, bien sûr, parce que Mussolini... les avait convertis, mais pas vraiment, hein. Il n'avait pas réussi. Alors, ici, dans Rome, ville ouverte, on vit une guerre silencieuse. Pourquoi silencieuse ? Parce qu'ils ne sont pas sous les bombes, parce que Rome est ville ouverte. Donc, ils n'ont pas à craindre un bombardement comme dans d'autres villes. On pouvait les craindre en Allemagne, et puis après, en France, tout ce qui s'y est passé. Mais... il fallait à ces héros de l'ombre, parce que c'est employer des trésors d'imagination et montrer qu'ils étaient qu'ils collaboraient pour réussir à avoir un morceau de pain pour pouvoir manger. Et ils ont décidé malgré tout de transformer ce désespoir, cette misère en courage et en volonté. Pour se sortir de là et pour construire quelque chose de meilleur. Et ça, Rossellini le montre admirablement. Et il est servi par des comédiens extraordinaires, parce qu'il y a la grande Anna Magnani. Anna Magnani qui a été révélée.
Qui joue Pina, donc, cette veuve au chômage qui est sur le point de se marier.
Révélée par ce film. Et puis Anna Magnani a une histoire assez extraordinaire, parce que c'est une enfant, on disait à l'époque, une enfant de l'assistance. Quoi. Elle n'a pas connu ses parents, elle a commencé à chanter dans les cabarets. À tel point, elle est devenue à tel point populaire que les Italiens l'appelaient la Magnani. C'est un signe, quoi. Et elle crève littéralement l'écran, comme ses partenaires masculins, le Aldo Fabrizi qui incarne Don Pietro Pellegrini, pardon, le prêtre, est extraordinaire. Il est aussi extraordinaire.
Paul, il y a une scène à la fin, terrible, une scène, plusieurs même, ça dure, où ils sont finalement arrêtés donc, par les SS, et le résistant, en l'occurrence Manfredi, donc, est torturé, et ce, en présence du prêtre. Difficile de ne pas voir aussi, dans la fin de ce film, la certitude que Dieu n'est pas forcément là où on l'attend et que son visage se révèle parfois dans des circonstances, j'allais dire surprenantes. Le mot est mal choisi, mais vous comprenez ce que j'entends.
Oui, tout à fait. Dieu n'est pas du côté de la violence. Ce qui surprend beaucoup les SS qui sont occupés à pratiquer la torture, c'est-à-dire que le prêtre, c'est une torture morale pour lui. Lui, il est pas torturé physiquement, mais on le fait assister à la torture physique est extrêmement violente, enfin brûlée au chalumeau, tout ça, pour le faire craquer. Et il dit, il n'a pas parlé, il lui dit, tu n'as pas parlé.
Et, ce résistant qui...
Manfredi meurt, mais il meurt, je dirais, le devoir accompli, et le prêtre le bénit. Et le prêtre le bénit, et après le prêtre est emmené au poteau d'exécution, ou plus exactement à la chaise d'exécution. Ce qui est intéressant aussi dans ce film, ce qui est très fort, c'est que les enfants de leur côté mènent aussi le combat à l'insu des parents. C'est-à-dire que...
Et un vrai combat. Hein,
et un vrai combat, oui, ils transportent,
il faut exploser
des bombes, tout ça. Donc c'est pas qu'un jeu de gamin. Peut-être qu'ils jouent un peu à la guerre, mais ils jouent pour de vrai. Et ils ont intégré les codes, il ne faut pas parler, faut garder le secret. Et là, on sent bien ce mouvement de bascule aussi mis en valeur ici dans ce film par Rossellini. C'est l'avenir aussi qui se prépare, c'est-à-dire il y a l'espérance d'un monde nouveau dans lequel même les enfants vont acquérir une dignité et ramener un monde plus juste et plus équitable.
Et c'est vrai que c'est du coup aussi la guerre vue un tout petit peu d'un regard d'enfant.
Ce
n'est pas qu'un regard sur la guerre.
Voilà, oui, c'est un regard d'enfant et un regard de croyant. Le prêtre aussi...
Oui, je ne voulais pas vous couper, je faisais juste signer à Louis-Marie. Rome ville ouverte, donc de Roberto Rossellini, c'était notre choix de ce mois pour ce deuxième film. On va faire une deuxième pause musicale que je vous laisse introduire, Louis-Marie, avant qu'on parle de notre dernier film, donc le chef-d'œuvre spirituel du mois, qui a pour titre Stalker.
Stalker, ben, c'est un extrait de la BO, de la bande originale, du film. Mais le compositeur de cette musique a un nom imprononçable et surtout très difficile à mémoriser.
Après, l'essentiel, mais c'était qu'on sache.
Je suis perdu dans mes notes.
Ça concerne le film.
Exactement.
C'est pas grave.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est pour rappel le thème de l'émission de ce jour, émission cinéma du mois avec Louis-Marie Soler, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse, et Paul Dima, animateur de retraite cinéma avec le Cotopaïs, centre jésuite dans le sud-ouest, et il faudra que vous m'aidiez à y penser évidemment, tous deux animateurs du Ciné-Parole qui a lieu donc mardi prochain, mardi 12 novembre. Deux rendez-vous, 14h30 pardon, et 20h30. On redira ça à la fin de l'émission et c'est le premier film dont on a parlé, Sorry We Missed You de Ken Loach. Donc dernier film qu'on a introduit par cette musique d'Edouard Artemiev.
Mief.
Donc film qui s'appelle Stalker. Stalker, ça veut dire quoi déjà pour commencer, Louis-Marie ?
Le stalker, c'est celui qui sait par où passer, qui est un peu
le maraudeur,
qui est capable de trouver la piste.
Oui, celui qui en même temps épie, cherche et en embuscade, mais pour guetter. Le guetteur.
C'est un mot anglo-saxon.
To stalk. Ouais.
Alors, stalker, donc l'histoire. Dans une époque indéterminée, donc, il existe une zone interdite, fermée et gardée militairement. On dit qu'elle abrite une chambre exauçant les désirs secrets des hommes et qu'elle est née de la chute d'une météorite. Et pour accéder à ce lieu, c'est un accès qui est bien périlleux, certains bravent l'interdiction d'accéder à ce lieu et les guides justement pour accéder à ce lieu sont les stalkers, des êtres déclassés, rejetés, qui connaissent les pièges pour accéder à ce lieu. Louis-Marie, qu'est-ce que vous diriez pour compléter la présentation de ce film ?
On va assister, donc le film va raconter l'Odyssée, peut-être, c'est comme ça qu'on pourrait le dire, du stalker avec deux personnes qui veulent rentrer dans cette zone indéterminée. Il y a un écrivain. Et
un professeur, un scientifique.
Et un scientifique. Alors, le scientifique a pour but, en fait, c'est ce qu'il dit. Après, on n'est pas très sûr de ce qu'il veut vraiment. Mais il dit vouloir détruire cette zone. Mmh. Et l'écrivain, lui, se cherche un peu, cherche à se retrouver. C'est ce pourquoi ils veulent aller dans cette fameuse pièce dont vous avez parlé, Emmanuel.
Alors, les critiques, les quelques critiques que j'ai trouvées sont... absolument dithyrambique. Les cahiers du cinéma dire que Stalker est un film sublime et peut-être pour une fois à entendre au sens littéral. François, un chef-d'œuvre. Libération, un chef-d'œuvre exténuant de beauté. Télérama, le dernier film de Tarkovsky, est aussi un chef-d'œuvre. L'un des rares de ces dernières années. Il est sorti en quelle année déjà, Louis-Marie ?
79.
Exactement, la fin des années 70.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce réalisateur, Andrei Tarkovsky, qui a, semble-t-il, un réalisateur russe. Enfin, il fut un temps soviétique, même s'il a fui après l'URSS. Donc on dit que c'est un des maîtres du cinéma qui vient de ces contrées-là. Comment vous nous le présenteriez ?
Il a toujours jamais fait de compromis par rapport à ce qu'il voulait faire, à ce qu'il voulait montrer à l'écran. Parce que ce film est inspiré d'une nouvelle ou d'un roman signé par deux frères. Et en fait, c'est juste un prétexte, parce qu'il se détache largement, puisque l'œuvre en question est plutôt une œuvre de science-fiction. Et là, on s'en détache. Bon, on peut penser qu'on est dans un futur, mais on ne sait pas lequel. C'est un pays indéterminé. Peu importe le lieu, ce qui intéresse Tarkovsky, c'est ce qui se passe dans la tête de ces personnages. Et quand ils sont confrontés, alors ils confrontent aussi deux mondes, et c'est là où on voit tout le talent de sa mise en scène et son talent de cinéaste, c'est-à-dire qu'il oppose le monde en déliquescence, avec des images qui sont sépia, un peu passées, c'est pas de belles couleurs. Et quand on est dans la zone, par contre, là, c'est luxuriant, c'est la végétation, c'est les couleurs qui pètent, qui claquent. Là, rien qu'au niveau des images, on a tout dit. Et quand on sait à quelles difficultés il a été confronté pour arriver à ces images, lui aussi, on parlait de pellicule à propos de Rossellini. Tarkovsky, parce que vous l'avez dit, en 79, il y avait toujours le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et il avait la chance grâce à ses contacts à l'Ouest, d'avoir des films, des pellicules. Pour faire son film, il avait des films, des pellicules Kodak, qui étaient d'un type nouveau. Donc, ce qui a permis de faire des images nouvelles. Oui, mais seulement, les laboratoires soviétiques n'étaient pas familiarisés avec le produit, donc ils y ont tout salopé, le développement. Et en fait, il a eu un an de travail bousillé. Un an de travail bousillé, parce que les pellicules ont été mal développées. Et il a dû recommencer tout son film avec le budget entamé, forcément. Et il a réussi à faire ça. Donc c'est assez exceptionnel.
On va juste écouter un extrait de la bande-annonce.
Зона – это очень сложная система ловушек, что ли. Но стоит тут появиться людям, как все здесь приходит в движение. Здесь исполнится ваше самое заветное желание.
Alors vous dites que c'est un cinéaste qui n'a jamais fait de compromis. Il faut aussi dire donc que c'est un cinéaste qui a été confronté à la censure à de multiples reprises.
Bien
et
sûr.
Qui a fini par fuir donc l'URSS et qui était très apprécié en France puisqu'il a été accueilli par les autorités françaises, je crois, à la
oui.
fin de sa vie pour être soigné d'un cancer. Alors Paul, pourquoi est-ce un beau film ?
C'est un conte ou un récit initiatique. Qui est à la fois métaphysique et politique. Cet espace dans lequel il est très difficile de rentrer est en même temps paré de plein d'idéaux et de rêves, mais en même temps, quand on est dans cet espace-là, on est complètement perdu parce que rien n'est jamais identique. La ligne la plus courte pour aller d'un point à l'autre, ce n'est pas la ligne droite. Y a des pièges qui se renouvellent en permanence. On est sans cesse confronté à l'imprévisible et à quelque chose d'assez inquiétant. Et cette inquiétude renvoie à des questions métaphysiques. On cite à un moment, y compris le patrimoine chrétien. On évoque la figure du Christ dans sa rencontre avec les pèlerins d'Emmaüs. Ils sont trois. Il y a le stalker qui est un petit peu le guide ou celui qui dit « Maintenant, c'est à toi d'y aller. Vas-y. » Alors, il jette un boulon avec des étoffes. Ils doivent suivre ça. Et le film dure 2h40. Et en fait, ils font des parcours, mais un peu sur place. C'est-à-dire que ce n'est pas immense comme terrain, mais c'est toujours nouveau, menaçant, posant des questions. Et ils font tout un chemin intérieur de remise en cause. Mais en même temps, c'est une lecture...
Donc c'est là pour signifier quoi, en fait ? Une sorte d'errance existentielle ou plus que ça ?
Oui, plus que ça, de quête profonde du sens de la vie, de leur vie, de ce qu'ils font, de par où il faut passer pour se dépouiller aussi, pour... voilà. Alors, c'est tout à fait... Et pour le spectateur, c'est aussi très éprouvant, parce qu'on fait un parcours très lent avec eux et on ne sait jamais... Vers où ça va ?
J'ai trouvé cette phrase d'Andrei Tarkovsky. La fonction de l'art est de préparer l'homme à sa mort, de labourer et d'irriguer son âme et de la rendre capable de se tourner vers le bien. Ça dit quelque chose du film ?
Oui, tout à fait. C'est très métaphysique. C'est-à-dire que leur propos, c'est qui sommes-nous ? Où allons-nous ? Quel est notre désir ? Et le stalker, à la fin, est un peu désespéré parce qu'il a pour but de conduire les hommes dans cette quête, un peu comme ce qui se fait aujourd'hui avec le chemin de Saint-Jacques, mais avec des épreuves en plus. Et il s'aperçoit que les hommes d'aujourd'hui, représentés par l'écrivain qui est le monde des artistes et des poètes et des penseurs, et le professeur physicien qui est le monde de la technologie, et ni l'un ni l'autre n'osent aller jusqu'au bout, entrer dans la chambre où leurs désirs les plus profonds vont être mis à jour. C'est-à-dire que... Ils sont en marche, mais ils ne vont pas. Et Stalker, lui, espérait bien faire cette quête mystique jusqu'au bout. Et ben, il s'abandonne.
Vous dites que c'est un film mystique et un film politique. Vous avez commencé par dire politique.
Oui, un film politique parce que cette zone est extrêmement menaçante pour une dictature, puisqu'elle exauce les désirs les plus profonds des hommes et des femmes qui sont en quête d'absolu. Et donc, évidemment, elle est interdite d'accès. Mmh. Et alors, il y a des patrouilles autour, il y a tout ça. Et alors, il faut ruser pour rentrer dans cette zone. Mais une fois qu'on est dedans, ce n'est pas le paradis terrestre. C'est-à-dire qu'on est renvoyé à tous nos désirs contraires, contradictoires. Et c'est autant d'épreuves à franchir. Il y a des images quasi baptismales où il faut descendre dans l'eau pour remonter de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il faut abandonner le vieil homme, il faut quitter plein d'illusions. Donc c'est très éprouvant, c'est très éprouvant.
Mais oui, très Louis-Marie, beau. Louis-Marie, cette œuvre est-elle à l'image du reste de son œuvre? Quels sont les grands thèmes que l'on retrouve au long du cinéma de cet Andrei Tarkovsky?
Les préoccupations de Tarkovsky ont été toujours les mêmes, et toujours cette confrontation entre les métaphores, vous savez, de la création artistique, mais aussi l'espoir, et puis aussi la souffrance, le côté métaphysique et humaniste a toujours traversé l'œuvre de Tarkovsky. Rappelez-vous, alors c'est son dernier film, effectivement, Stalker, mais on se souvient de Solaris, qui avait été la réponse finalement
russe,
soviétique, à 2001, l'Odyssée de l'espace.
L'Odyssée de l'espace, oui.
Et c'est lui le premier à avoir fait ce film. Et là aussi, c'est pas un film facile. Quand 2001, l'Odyssée de l'espace, les spectateurs ont été surpris. Qu'est-ce que c'est que ce film de science-fiction? Parce qu'ils comprenaient pas. C'est difficile à comprendre, d'ailleurs, le film. Il faut bien être sur son fauteuil pour en percevoir toutes les nuances. Et pour Solaris, c'est un peu pareil. Mais il y a le Stalker, c'est une réponse à Solaris, d'une certaine façon.
Est-ce qu'on sait comment était apprécié son cinéma en URSS? Il était quand même diffusé un petit peu? Il était méconnu chez lui et connu ailleurs?
Il était très connu en dehors des frontières de l'Union soviétique, de l'URSS, de la Russie. Enfin, l'URSS, c'est plus grand que la Russie. Mais effectivement, il a été souvent sous le coup de la censure et donc moins diffusé. Néanmoins, il a eu une portée assez, son cinéma, assez extraordinaire. Et même cette œuvre-là a marqué. Alors, j'ai noté quelques personnes, en fait, quelques œuvres qui ont été marquées par ce film même. L'affiche du film, pour sa diffusion occidentale, a été dessiné par Jean-Michel Follon, ouais, l'artiste français. Chris Marker, qui est un grand réalisateur de films, qu'on connaît bien ici en France, dans un film qu'il a tourné en 82, Sans soleil, s'est inspiré de la zone pour décrire l'espace de transformation entre les images et la mémoire qui leur est liée. Voilà. Il y a les paroles d'une chanson de Björk, The Dull Flame of Desire, sont la traduction du poème de Fyodor Tchoutchev qui est cité à la fin du film. Et plus près de nous, un film d'action où on tire des coups de feu beaucoup, inspiré une adaptation de bande dessinée qui s'appelle Atomic Blonde avec Charlize Theron. Eh bien, il y a une scène de combat qui se déroule dans un cinéma. Et dans ce cinéma, qu'est-ce qui passe? Stalker. C'est un film qui est un réalisateur qui a marqué.
Pour finir, Paul, vous l'avez dit, mais est-ce que vous le deviez le redire ou le résumer? Pourquoi est-ce un chef-d'œuvre? Pourquoi faut-il persévérer à voir ce film probablement très déroutant et éprouvant, comme vous dites, et fort long?
Éprouvant au sens de... Il nous renvoie à... Et mon désir, comment je l'écoute et comment je le suis, mais à partir d'un parcours d'épure, d'épreuve. Il y a aussi une autre dimension, c'est le stalker passe pour un déclassé, quelqu'un sans importance. Et dans le film, il est l'homme au cœur pur, un petit peu comme les starrets ou les gens qui se déplacent tout le temps, qui ne sont pas considérés, mais qui ont la richesse du cœur près des vérités simples et qui ne lâchent pas la quête. C'est-à-dire que c'est des mystiques qui n'abandonnent pas leur recherche d'un absolu, du style en souffrir. Voilà, il en souffre de voir que la quête qu'il essaie d'accompagner est abandonnée par les hommes qui n'ont pas la foi, mais la foi au sens large du mot, ils ne croient pas.
Eh ben merci beaucoup messieurs, on va rappeler le titre des trois films, donc Sorry We Missed You, donc de Ken Loach, avec deux rendez-vous pour votre ciné-parole, ce ciné-débat. Tout le monde est le bienvenu, mardi prochain, 14h30, 20h30, deux séances et deux discussions à la fin pour débriefer sur ce qu'on a ressenti et ce qui nous a traversé au visionnage de ces films. Deuxième film, donc Rome Ville Ouverte de Roberto Rossellini et Stalker, donc de Andrei Tarkovsky. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.